Lorsque Diego m'a fait l'amitié de me demander, il y a quelques semaines, si je voulais bien m'associer à l'hommage rendu à Maurice Auriou à l'occasion de la réimpression de la première édition des Principes de droit public, j'ai spontanément accepté avec un vrai plaisir. Le plaisir d'abord de retrouver des amis fidèles, fidèles dans le combat sans fin que nous menons pour maintenir, quand on le peut, une certaine conception de l'appréhension et de l'analyse du droit. Celui ensuite de parler au sein de cette instance prestigieuse qu'est l'Institut Michel Villet. Celui enfin de dire quelques mots, même brefs et superficiels, sur cette œuvre qui a toujours accompagné ma réflexion. Ma réflexion sur le droit public depuis maintenant près d'un demi-siècle. Mais très vite ont surgi l'inquiétude et le doute. Cette familiarité, cet attachement dont Olivier parlait il y a un instant, disait Jean-Arnaud adore Auriou, cet attachement affectif à cette œuvre et à l'homme qu'il a généré, dont je tente de suivre le sillage depuis si longtemps, ne rend-il pas une telle entreprise scientifiquement périlleuse? Nous savons quelles sont, sur ce point, les injonctions de Bachelard et il ne faut pas mêler le sentiment à la science. N'est-il pas de surcroît vraiment présomptueux de prétendre amener quelques lumières à une œuvre si évidemment lumineuse. Et puis je me suis aussi rendu compte, alors que les principes du droit public sont sur ma table de travail dans l'édition Onéoté, ou je ne sais comment on dit, très volumineuse, je me suis rendu compte que ces principes que je croyais connaître, sans doute je ne les connaissais pas très bien, parce qu'ils m'étaient justement tellement familiers. Vous savez, les gens qui sont près de vous, souvent, on les connaît moins qu'on penserait ou qu'on ne croirait le penser. Alors, l'amicale proposition d'Olivier Beau, étant une heureuse occasion de surmonter cette trompeuse familiarité, j'ai repris, avec l'esprit de néophyte, en recherchant l'attitude de celui qui découvre, la lecture des prêtres. Et là, dès les premières pages, un nouveau sentiment a jailli chez moi. Un véritable enthousiasme, une sorte de jubilation, devant un texte dont je redécouvrais l'extraordinaire originalité, la richesse, la vitalité, la modernité aussi. Même si je sais fort bien que... Pardon, merci beaucoup. Je sais fort bien qu'il y a, dans les principes, comme dans l'ensemble de l'œuvre d'Auriou, parfois un charme suranné, le charme suranné d'une pensée d'un homme de son temps, et qui n'est plus tout à fait le nôtre. Alors oui, malgré mes craintes, j'ai eu envie de parler devant vous des principes du droit public. La première raison tient au titre même de l'ouvrage. C'est qu'il s'agit d'une réflexion sur des principes et des principes de droit public. La résurgence de cette double orientation m'est apparue comme une sorte de nécessité dans une perspective d'approche du droit qui est aujourd'hui souvent, trop souvent négligée et qui est celle de l'épistémologie ou de la théorie de la connaissance. Réfléchir d'abord sur les principes de notre discipline. Qui en effet aujourd'hui s'attache dans notre discipline juridique à remonter aux principes? Le positivisme dominant, le souci de l'efficacité immédiate, de la rentabilité, font que cette recherche des fondamentaux dans un champ de recherche et de savoir, est le plus souvent négligée, si elle n'est pas ouvertement méprisée, voire décriée. Notre droit est devenu un savant et pesant mécano construit sur les sables mouvants de l'ignorance. Il est donc essentiel, à mes yeux, de revenir à Auriou, à cet esprit qui cherche, dans ce livre comme dans toute son œuvre, à dégager ou même à construire les éléments fondamentaux sur lesquels s'érigent les institutions et les normes qui constituent le droit public. Le droit public, justement. Le droit public, une discipline qui pourrait bien relever, d'ici peu de temps, de l'histoire du droit, voire de la paléontologie juridique. Il y a quelques mois, à Toulouse, un jeune agrégé, Xavier Bioy, a eu l'heureuse idée d'organiser un colloque sur le thème « L'identité du droit public ». Et il a pu être constaté à cette occasion que si le droit public a quelque sens aujourd'hui, c'est essentiellement par opposition au droit privé, mais qu'il n'a plus aucune unité propre,
que le sens global, transversal, la logique interne et commune dans cette discipline a disparu et qu'il n'est plus que la coexistence improbable de disciplines toujours spécialisées, toujours plus spécialisées. Plus même, nous le savons tous, chacune de ces disciplines revendique, au-delà de son autonomie, justifiée par sa technicité, une position dominante vis-à-vis des autres. Le droit public, balkanisé, a perdu son identité, étouffé par les querelles de spécialistes et d'âpres luttes de pouvoir. Et il y a très peu d'ouvrages aujourd'hui qui s'attachent au droit public. Il vient d'en sortir un, je l'ai porté pour que Olivier puisse le lire, c'est une théorie du droit public publiée aux éditions L'Armatan par M. Jiang, mais cet ouvrage est parmi les très rares qui tente une vision synthétique de ce qui serait, au-delà de ces divisions, le droit public. D'où l'importance et l'intérêt de ce regard sur les principes de droit public. Au centre, Olivier l'a très bien dit dans sa préface, traversé par ces principes, l'État. Mais une théorie de l'État qui apparaît d'emblée selon une profonde originalité, car ce n'est pas, nous reviendrons là-dessus, l'État en tant que fiction personne ou personne fiction, comme vous voudrez, qui est analysé. C'est l'État comme le résultat de la combinaison d'un ensemble d'éléments objectifs dégagés sur tout l'arc social. Dès la préface, nous avons cette perspective synthétique et cette vision élargie de l'État, enracinée dans le magma social, entraîne chez Auriou une réflexion qui est totalement inédite et originale encore aujourd'hui sur la substance même de ce qu'est le public. Qu'est-ce que le public? Qu'est-ce que son essence et son existence? C'est une question qui, je le disais il y a un instant, aujourd'hui encore, reste en suspens. On trouve la réponse parfois chez des philosophes, chez Hannah Arendt par exemple, dans sa condition de l'homme moderne, mais chez les juristes, au-delà des tautologies habituelles, le droit public c'est le droit de l'État et des personnes publiques, nous n'avons pas de réponse véritablement. Or, Auriou définit le public par sa logique interne, et non pas par rapport au droit privé. Et cette perspective était déjà la sienne dans la sixième édition de son précis, le droit administratif, en 1907, et elle est reprise et repensée quelques mois plus tard dans les principes. Alors là, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais dans le précis, en 1907, le précis de droit administratif, Auriou retient trois critères dans lesquels il fait intervenir le territoire, mais le territoire qu'il analyse de manière très originale, le rattachement à des institutions, à l'ensemble des institutions d'un pays, et puis l'aspect non lucratif. Dans les principes du droit public, l'idée majeure, c'est que le public, c'est l'articulation, ça c'est pas très original peut-être, l'articulation de la contrainte et du service, mais pour lui, ce qui est le plus important, ce qui est public, c'est ce qui se rapporte à ce qui est commun, c'est-à-dire à l'idée de communauté. L'idée de communauté qui est vraiment, nous en avions parlé à Bordeaux l'année dernière, la clé cachée de la pensée d'Auriou, parce qu'on ne fait pas attention à cette idée qui est pourtant centrale. La communauté, ce n'est pas l'État, c'est une perspective autre, plus large, dans laquelle l'État s'insère, mais qui va bien au-delà de l'État. Et dans cette perspective, Auriou aborde un concept qui est tout à fait moderne, qui a été repris aujourd'hui dans pas mal d'analyses ethnologiques ou sociologiques, voire économiques, qui est la notion de foule. La notion de foule qui est tout à fait originale, sur laquelle nous reviendrons dans un instant. Il faut ajouter que, et c'est une nouvelle raison d'être attaché à ces principes de droit public, qu'il y a dans cette œuvre une dimension très importante, même si elle est implicite, qui est une dimension d'éthique politique, qui est devenue bien rare encore aujourd'hui. Une dimension d'éthique politique qui doit être transmise par le savoir et la pédagogie. Page 5, Oriou écrit « Le droit public n'est pas pour former des procureurs fiscaux. Il n'est pas uniquement pour former des administrateurs. Il est pour former des citoyens. Des citoyens, des électeurs et de futurs législateurs. » Il y a enfin, dans ces principes de droit public, un caractère qui les rend plus attachants encore. Ils sont traversés par ce que je n'hésiterai pas à appeler un flux poétique. Un flux poétique qui, sur une ligne où Oriou rejoint Bergson et Deleuze, mobilise l'intuition au-delà de la raison. Cet aspect, vous le savez, n'est généralement guère apprécié par la doctrine juridique, méfiante vis-à-vis de tout échappé, hors d'un strict positivisme. Et c'est avec quelques condescendances, je m'en suis souvent aperçu, que certains de mes collègues qualifient Oriou de poète. C'est pourtant là qu'Oriou ouvre une voie heuristique originale. Il la définira plus tard, d'ailleurs, en 1925, dans son grand article sur l'institution, lorsqu'il évoquera l'importance du rôle du trouvère dans l'institution, celui qui trouve l'idée d'œuvre qui va être à la base de l'institution. Celui qui, au-delà du cheminement, du long cheminement de la recherche, a une relation immédiate de compréhension avec le réel et d'appréhension du réel. Celui qui trouve. Et là, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je ne résiste pas à vous dire cette anecdote que certains connaissent peut-être, de Picasso qui se voit interrogé par une personne qui lui demande « Maître, quel est le sens de votre recherche ?» Et Picasso, bourru comme il l'était souvent, dit « Mais je ne cherche pas, je trouve !» Et c'était véritablement l'expression même de cette immédiateté du rapport au réel que l'on trouve chez Oriou en tant qu'il est d'une certaine manière un trouvère. Trouvère, il l'est de plusieurs manières. Il l'est par l'usage d'abord qu'il fait des métaphores. Des métaphores qui donnent la main à la pensée et lui ouvrent une autre forme d'intelligibilité. Alors là, il faudrait avoir le temps d'ouvrir le livre. Il y a beaucoup d'exemples. Mais page 176, Oriou évoque les zoophytes. Et il dit « Comme le zoophyte est l'infusoire, tout en bâtissant l'institution sociale, l'homme tente de vivre pour son propre compte et avoir avec ses semblables et le monde extérieur des relations qui sont dans l'intérêt de la vie. » Un peu plus loin, lorsqu'il évoque l'État tel qu'il le conçoit, il le compare à une cathédrale gothique. L'État ressemble à ces cathédrales gothiques dans lesquelles l'élévation de la voûte n'est obtenu que par une sorte de défi aux lois de l'apesanteur et qui se soutient grâce aux contreforts extérieurs. Cette pensée de l'extérieur qui est très importante chez Oriou, c'est souvent à l'extérieur qu'on trouve l'explication des choses, et notamment là, à l'extérieur de l'idée d'un État, personne, qui serait posé a priori. Trouvère, Oriou l'est surtout par des fulgurances qui sont le témoignage d'une lucidité quasi prophétique, sur des points essentiels qu'il faudrait d'ailleurs recenser et approfondir. Il y a une lecture d'Oriou qui serait à faire autour de ces fulgurances dans le domaine politique et dans le domaine économique et social. Dans le domaine politique, par exemple, la vision objectiviste d'Oriou, qui fait de l'État le résultat objectif du rapport à la nation, lui fait voir ou comprendre ce qu'est la chose publique, la notion de chose, qui est une notion assez obscure en fait, mais sur laquelle Oriou nous ouvre déjà des perspectives. La notion de chose qui est une vision objective opposée à la personnalité de l'État et qui fonde la chose publique, la République. La foule dont nous parlions tout à l'heure et qui est à la fois quelque chose d'inorganique qui fait penser un peu à la sérialité dont parle Sartre dans son œuvre, mais en même temps qui est un ensemble d'individus pouvant penser ensemble. C'est réel, mais qui ont une pensée ensemble. Ça semble contradictoire, mais bon, la foule, c'est peut-être ça. Réflexion sur le territoire, qui est très important comme fixation des individus par le pouvoir. L'homo manens, qui est le premier qui peut être gouverné. Les femmes. On a dit qu'Oriou était misogyne, quelque part. Moi, je n'ai pas vu Oriou misogyne. J'ai lu, page 199, que les femmes avaient un rôle de plus en plus important dans la société et qu'il faudrait bien un jour qu'elles aient un rôle politique dans la société. Page 199 des principes. Il me semble que là, il n'y a pas le moindre doute sur la conception qu'avait Oriou à cet égard. Mais des fulgurances aussi dans la dimension économique et sociale. Nous avons dans les principes de droit public une analyse sommaire, mais déjà qui s'ouvre sur l'avenir, de la notion de marché. Et les marchés ayant un territoire qui n'est pas le territoire de l'État, un territoire indépendant au plan international. L'idée même de globalisation est presque là, sans vouloir rendre Oriou plus prophète qu'il n'est. La notion bizarre de communisme juridique préfigure l'idée de l'interventionnisme de l'État. L'allusion faite à plusieurs reprises par Oriou à la notion de classe. Le régime civil dans notre pays est un régime de classe, dit-il, et il parle à plusieurs reprises de la lutte des classes. Et il définit dans cette perspective le prolétaire. Je ne peux pas résister à vous lire ce passage. La catégorie des travailleurs, vraiment séparée de la vie civile et constituant une classe à part, est la catégorie des salariés dont le travail est traité comme une marchandise et qui ne reçoivent en échange qu'un salaire pur et simple, sans aucun droit sur leur emploi. Ce sont eux qu'on appelle les prolétaires, parce qu'ils ne possèdent rien, même pas cette propriété incorporelle que constitue un emploi assuré. Et quelques pages plus loin, Oriou, on le découvre, je l'ai découvert il y a quelques semaines, et alors là, ça m'a quand même impressionné, Oriou consacre 2 pages à la notion de pénibilité. À la notion de pénibilité, objective, dans la mesure où effectivement est pénible un travail physique, mais la pénibilité pour lui est aussi subjective, est pénible un travail dans lequel celui qui le fait n'est pas lié au faire-valoir de l'entreprise dans laquelle il est impliqué. Et je pense que c'est une très, très intéressante analyse de la pénibilité, au-delà de son aspect purement objectif et matériel. Voilà, tels sont les chemins multiples, les sentiers qui bifurquent, ouverts par ces principes. Et ces principes, lorsque on essaie d'avoir une vision globale de leur rapport, on s'aperçoit qu'effectivement, il s'agit d'un ensemble complexe, mais dans lequel on peut faire apparaître, c'est ce que je voudrais vous montrer, le plus brièvement possible dans les propos qui vont suivre, dans laquelle on peut faire apparaître 2 dimensions qui se superposent et se combinent. À un moment donné de son ouvrage, Oriou fait référence à ce qu'il appelle une géologie juridique. Encore une expression qui peut sembler curieuse. Une géologie juridique, et il raisonne en termes de couches superposées. Plus loin, il analyse ce qu'il nomme les équilibres de superposition. Or, on s'aperçoit que la structure des principes de droit public obéit à cette logique de géologie juridique ou d'équilibre de superposition, qu'il y a des couches, des strates, qui ne correspondent pas aux mêmes idées ou à la même problématique, mais qui se superposent l'une sur l'autre, alors même qu'elles sont tout à fait différentes. 2 strates, donc, qui se superposent. D'une part, Oriou définit dans les principes une ligne que je qualifierais de synthétique, car elle vise à saisir l'État comme une synthèse d'un ensemble d'éléments objectifs diversifiés qui s'articulent pour l'ériger. L'État est au bout de cela. Ce n'est pas la personne que l'on pose, il est au bout de la combinatoire d'éléments, il est la synthèse de ces éléments. Ça, c'est la ligne. À partir de cette ligne, Et pour l'appréhension de ces éléments et de leur combinatoire, Horiot définit ce qu'il appelle un régime d'État. Formule un peu mystérieuse que nous essaierons d'éclairer. Régime d'État que Horiot tente de dégager dans une construction dont la complexité relève de ce que l'on pourrait appeler une démarche syncrétique. Je m'expliquerai sur le mot le moment venu dans ce deuxième point. Donc, le plus brièvement possible, je vais m'efforcer d'être le plus bref possible, une ligne synthétique et une construction syncrétique. Les principes de droit public, une ligne synthétique. La recherche d'une synthèse autour d'une théorie de l'État constitue bien, pour Horiot, l'essentiel de l'œuvre entreprise avec les principes de droit public. On dira qu'Horiot est un poète, on dira qu'il est confus, on dira qu'il est buissonnant. Il y a une ligne, cette ligne est rationnelle, elle est synthétique. À la page 8 de la préface, Olivier l'a relevé dans sa propre préface, l'idée de synthèse est bien présente pour comprendre ce qu'est l'État. Alors bien évidemment, ensuite, les choses sont complexes, buissonnantes, multiples, mais il y a une véritable cohérence. Et cette ligne synthétique, dessiné par Horiot, résulte, dès l'ouverture des principes, ce sont les deux premiers chapitres, dans une attitude qui est originale, là encore, qui est ce que Horiot nomme, on n'a pas fait assez attention à ça, des points de vue. Des points de vue. Ce n'est pas une analyse, c'est deux points de vue. Des points de vue complémentaires, celui d'abord de l'équilibre, ou plutôt déséquilibre, qui doivent, selon Horiot, moderniser la notion d'ordre, et le point de vue du régime d'État, qui fait que, à partir de ces équilibres, au sein même de la nation, une nouvelle conception de l'État peut émerger et se substituer à la conception ancienne. Je dis se substituer, ou plutôt, on pourrait dire, la moderniser. Car Horiot a toujours pensé, c'était une formule qu'il aimait dire, semble-t-il, qu'on fait du neuf avec du vieux. Et c'est bien ça. Le régime d'État, il fait du neuf avec du vieux, et nous verrons comment il revient d'ailleurs à la notion d'abord décriée de personnalité de l'État. Donc, d'abord, l'ordre et l'équilibre, et ensuite le régime d'État. L'ordre et l'équilibre, des points de vue, c'est-à-dire des perspectives qui mettent en jeu, pendant près de 70 pages, un ensemble d'éléments complexes, dans lesquels on peut dégager quand même deux lignes. D'abord, ce que j'ai appelé la dynamique de l'équilibre. Qu'est-ce que l'équilibre par rapport à l'ordre? Et comment ensuite cet équilibre se manifeste de manière plurielle? Il y a une pluralité des équilibres. D'abord, la dynamique de l'équilibre. Peut-être ça peut paraître un oxymore, car l'équilibre ne semble pas dynamique. Eh bien, chez Horiot, justement, l'équilibre et dynamique. Les sociétés, en effet, pour lui, vont vers le nouveau et souvent vers l'inconnu. Et il faut être à l'écoute du mouvement des transformations sociales, et c'est ce mouvement qui permet, si on est à l'écoute, de maintenir un véritable ordre, qui ne soit pas un ordre statique, un ordre enfermé, un ordre pesant. Il y a une image, dans les principes, qui est tout à fait significative. On est en 1910, la guerre n'est pas loin, et Horiot évoque la troupe en ordre de marche. La troupe en ordre de marche, c'est bien cette conciliation entre la nécessité de l'ordre, mais la nécessité du mouvement. Et les équilibres, c'est bien un facteur de durée, de stabilité, de paix, mais c'est avant tout un facteur d'évolution. Pour Horiot, l'équilibre, ce n'est pas les plateaux de la balance qui tendent à l'immobilité. L'équilibre, l'image de l'équilibre chez lui, puisqu'il y a toujours des métaphores qui expriment quelque chose, l'équilibre, c'est celui d'où résulte le mystère de la vie. La coordination de forces, un équilibre imposé par la vie. Donc c'est un équilibre vital. Et ça, je crois que c'est vraiment essentiel. Il y a chez Horiot une dimension vitaliste qui le rattache à un courant dans la philosophie contemporaine dont nous avons parlé déjà, qui est celui de Deleuze, par exemple. Mais ces équilibres, ils sont pluriels, dans une perspective d'ailleurs qui s'élargit. Il y a d'abord les équilibres entre les États, et là, Ourieux en profite pour faire une excursion vers le droit international. Il y a les équilibres au sein de l'État, équilibre entre le gouvernement et le corps électoral, nous y reviendrons dans un instant, entre centralisation et décentralisation, etc. Équilibre au sein de la nation, ce sont les plus importants, ce sont les plus fondamentaux, équilibre entre les forces politiques et les forces économiques, entre le militaire et le civil, entre la vie publique et la vie privée. Et alors il y a un dernier point qui est assez étonnant, qui est l'équilibre ou les équilibres dans les rapports avec le monde physique. Et là, Ourieux déploie toute une analyse des notions de risque, de hasard, d'assurance, qui est extrêmement moderne parce que nous avons là tous les éléments de réflexion qui vont ensuite réapparaître autour de l'improbable, du discutable, mais du présent dans notre modernité, principe de précaution. Ourieux a déjà pensé à cette question du rapport au risque dont il a été tellement question par la suite. Ça, c'est l'ordre et l'équilibre. Cet ordre et cet équilibre est mis en place pour que la nation, dans son ensemble, soit aménagée en régime d'État. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une formule complexe, tu as dit, Olivier, un peu obscure et... Je serais assez d'accord, mais je pense qu'elle peut être comprise à la fois par ce qu'elle rejette et par ce qu'elle établit. Ce qu'elle rejette, cette formule, la nation aménagée en régime d'État. Ce qu'elle rejette, c'est une conception entièrement subjective de l'État, de même qu'une conception totalement objective. Il y a cette phrase qui est, je crois, assez connue, enfin connue de ceux qui s'intéressent à Ourieux, ils sont peu nombreux. Il faut prendre le parti héroïque de mettre provisoirement de côté le point de vue de la personnalité juridique de l'État. Cela, évidemment, contre la doctrine allemande, la bande, Jelinek, pardon, et les autres. Mais Ourieux rejette aussi, nous le savons, la conception objective de Dugy qui nie toute personnalité à l'État. Et l'essentiel est bien, Olivier Beau l'a montré aussi, le rejet de l'État sujet de droit. Il y a chez Ourieux plutôt, non pas un rejet de l'État sujet de droit, mais je dirais un déplacement ou un renversement. C'est-à-dire que l'État n'est pas posé d'abord pour ensuite couvrir la nation comme un couvercle qui pèserait sur un ensemble. C'est la nation, dans tous les équilibres qui sont les siens, dans tous les mouvements dynamiques qui sont les siens, qui synthétiquement arrive à former l'État. L'État qui n'est pas une personne, mais qui est un régime. Et c'est intéressant ceci parce que cela donne à la nation un statut dont je n'ai pas l'impression qu'il soit encore aujourd'hui bien clair, car la nation, nous le savons, n'est pas une notion juridique. Ça a entraîné des complications infinies, d'ailleurs, à propos des nationalisations, par exemple, qui ont abouti nécessairement à une étatisation, puisque la nation n'étant pas une notion juridique, on débouche sur l'État. Eh bien, Ourieux avait compris ce problème. Je ne dis pas qu'il l'ait résolu, mais il essaie de voir juridiquement ce qu'est la nation. Et pour lui, la nation est une réalité objective, saisie comme un ensemble de situations établies. Situations établies, maintenu par, dit-il, un pouvoir de domination. C'est-à-dire que dans la nation, il y a un équilibre entre ce qui est établi par le pouvoir de domination et ensuite l'État qui va essayer d'encadrer et de réaliser tout cet ensemble. Il semble bien ici que cette idée... de nation aménagée en régime d'État, cette conception de la nation, n'est pas très loin de la notion de société civile que l'on trouve chez Hegel et Marx. Alors je sais bien que Ourieux s'est toujours défendu d'être hegelien, qu'il préférait évoquer Saint Thomas, Mais il y a quelque chose de la société civile hegelienne dans cette notion de régime d'État. Et effectivement, le régime d'État, positivement alors, c'est un équilibre entre le pouvoir de domination et les situations établies, équilibre qui, nous dit-il, génère un État de droit. Et l'État de droit, donc, est le résultat de cela. Et Oriot, qui était un excellent historien, puisqu'il avait passé l'agrégation de droit romain, évoque le mundium germanique en l'opposant à l'imperium romain. En définitive, cet équilibre qui définit le régime d'État est un ensemble qui se rencontre dans les institutions les plus variées, et ces institutions, formant un équilibre, aboutissent à un État de droit, à un régime d'État qui n'est pas l'État, mais dont l'État résulte. Voilà la ligne. J'ai essayé de la clarifier, ce n'est pas facile, parce que Oriot a une pensée tellement riche qu'il est difficile d'en rendre compte d'une manière aussi brève et un peu précipitée, bien évidemment. En tout cas, vous voyez, le régime d'État, c'est bien quelque chose qui traverse la société, englobe l'État dans une idée d'équilibre entre domination et situations établies. Alors, effectivement, Oriot n'est pas hegelien, parce que l'État n'est pas au-dessus. Il n'est pas la synthèse au sens hegelien du terme. Ça, il ne faut pas s'y tromper. Il est une synthèse, mais qui est intégrée dans les éléments qui la constituent. Alors vous me direz, ce n'est peut-être pas une synthèse, mais Oriot a un esprit très souple qui fait qu'il peut évoquer la notion de synthèse sans tomber dans l'aspect transcendantal de la synthèse que l'on trouve, par exemple, dans la construction de Hegel dans son œuvre de 1821. À partir de là, Oriot va faire une construction que j'ai qualifiée de syncrétique. Alors, une explication d'abord sur ce qualificatif qui n'est pas très commun et qui peut paraître d'emblée comme étant un peu surprenant, voire déplacé. En effet, si l'on ouvre le vocabulaire technique et critique de la philosophie d'André Lalande, au terme syncrétisme, on lit ceci. Terme toujours pris dans un sens péjoratif, réunion factice d'idées ou de théories d'origine disparate et qui ne paraissent compatibles que parce qu'elles ne sont pas clairement conçues. Alors là, effectivement, partir là-dessus, ça peut paraître curieux. Ça a été repris d'ailleurs, sans autre réflexion, dans le discutable dictionnaire de l'épistémologie de Robert Nadeau. Alors, si nous proposons pourtant ce qualificatif, c'est d'abord parce que nous avons la caution d'un des plus grands maîtres du droit public, qui fut de surcroît l'élève d'Oriot. C'est en effet le terme de syncrétisme que Georges Vedel utilise pour qualifier la méthode d'Oriot dans un exposé tout à fait remarquable qu'il avait fait en 1968, lorsque un colloque sur Oriot avait réuni à Toulouse un certain nombre de grands maîtres du droit public de l'époque. Et à propos de ce syncrétisme, Vedel explique « C'est le refus d'une méthode purement normative ou factuelle. C'est une combinaison des deux méthodes, ou bien plus, l'acceptation de la contradiction fondamentale qui existe entre les deux. » Fort d'un tel appui, nous voudrions tenter de montrer que la construction d'Oriot, dans les principes, est bien établie sur l'acceptation d'une méthode fondée sur l'idée de contradiction, ou plutôt celle, qui justement n'est pas hegelienne, de la coexistence des contraires. La coexistence des contraires, car Oriot veut appréhender le monde qu'il analyse dans toutes ses dimensions, dans toute sa richesse, dans tous ses mouvements. Et il est foncièrement attaché à un pluralisme qui est celui-là même de la vie, dans toute sa complexité, dans toute parfois son indétermination, voire son obscurité. Mais si l'on parle de syncrétisme, c'est que Oriot parvient, du moins nous semble-t-il, à concilier le pluralisme à une véritable construction cohérente. Donc il y a l'ouverture vers le pluralisme, mais en même temps une construction cohérente qui permette l'intelligibilité de ce régime d'État dans une construction que nous voudrons suivre brièvement maintenant autour de ce qu'est la constitution de ce régime d'État avant, in fine, d'analyser comment ce régime d'État se réalise. D'abord donc, la constitution du régime d'État. C'est l'objet des premiers chapitres, des cinq premiers chapitres des principes, les deux premiers étant les deux points de vue, et les trois autres consacrés à ce qu'il appelle la trilogie du régime d'État. Cette trilogie dans le régime d'État livrant la structure de ce qu'est ce régime. Le régime d'État est en effet constitué, nous dit Horiot, d'éléments généraux qui peuvent être ramenés à trois. L'institution, le commerce juridique, le contrat. L'institution, d'abord, c'est le chapitre repris et manié de l'article de 1906, l'institution et le droit statutaire, et nous avons là une première, je ne vais pas être long là-dessus parce que ce n'est pas l'essentiel encore, nous avons là une première version de la notion d'institution qui va s'épanouir en 1925 et qui est ce que j'ai appelé il y a quelques années la médiation d'un pluralisme instituant. C'est-à-dire que l'institution, c'est l'élément d'un pluralisme qui va créer l'État et qui va créer l'ensemble des pouvoirs dans la société. C'est une sorte de carapace, à cette époque-là, dans la pensée d'Horiot, ça va changer plus tard, mais une sorte d'exosquelette du collectif. Mais nous sommes dans le collectif, déjà. Ce collectif, dont je n'en dis pas plus sur l'institution, parce que nous sommes là dans les premiers balbutiements. L'institution, nous le savons, va s'épanouir en 1925 dans le magnifique article qui lui est consacré autour de l'idée de vitalisme. Le commerce juridique, Horiot déplace ici l'analyse dans une perspective individualiste, nous dit-il. Mais immédiatement, il nous dit, cette perspective individualiste ne concerne pas l'individu isolé, mais une force collective. Et dans cette perspective, Horiot définit le commerce juridique comme l'appareil collectif de la satisfaction des besoins qui engendre des règles objectives de droit et qui est pénétré par ces règles. Derrière cette formule, Horiot montre que l'essentiel dans le commerce juridique, c'est l'idée d'échange qui ne s'enferme pas à l'intérieur d'une nation, mais qui est internationale, qui a ses sphères propres, et qui sont des sphères mondiales, nous dit-il, et cela s'appelle aussi les marchés, et on n'est pas loin de l'idée de marché telle qu'elle est apparue plus tard dans la pensée juridique. Et alors là, il y a quelque chose sur laquelle je voudrais m'arrêter un bref instant, c'est qu'il y a chez Horiot une contradiction qui, là, n'est pas très bien résolu. C'est que, dans un premier sens, et d'un côté, si vous voulez, Horiot établit très distinctement l'opposition entre le libéralisme politique et le libéralisme économique. Distinction entre la liberté individuelle et le commerce des échanges. D'ailleurs, il y a une très jolie phrase, il dit « La liberté n'a pas été trouvée sur les champs de foire ». Se rappelle une formule gaullienne, ça, d'ailleurs. La liberté n'a pas été trouvée sur les champs de foire. Donc, le libéralisme économique n'est pas la liberté. Et n'est pas le libéralisme politique. Mais d'un autre côté, par la voie du commerce juridique, les échanges, les marchés, apparaît l'idée de foi, de confiance, que l'individu a dans la vie sociale. Le crédit que, par l'intermédiaire de toutes les entreprises, il fait à la société. Il y a donc, dans le commerce juridique, cet élément de confiance qui, pour lui, est essentiel dans la vie sociale, le commerce juridique étant ainsi, d'une certaine manière, un élément du lien social. le contrat. Le contrat, oh, il y aurait beaucoup de choses à en dire, je vais vraiment résumer. Pourquoi Auriol l'institue-t-il comme un élément du régime d'État? Eh bien, parce que si c'est un effort de volonté des hommes dans leur confrontation, en tant qu'il produit des effets juridiques, il est la loi des partis, il constitue un élément de la vie sociale, et constituant un élément de la vie sociale, il est un élément du régime d'État. Très vite, cependant, Auriol va nous dire que ce contrat, il a un champ d'action limité. Il a un champ d'action limité et que le contrat, très souvent, est entraîné, est attiré vers l'institution. Pourquoi ? Eh bien, parce que le contrat n'est pas fait pour durer. Et que dès que l'on rencontre la durée, le contrat doit évoluer vers l'institution. Alors là, il y a de très belles formules à propos du contrat, et qui sont très exactes d'ailleurs. Le contrat, dit-il, est un mécanisme, constitue un mécanisme qui le pousse à essayer de s'emparer de l'avenir. Et il ajoute, le contrat représente ainsi la tentative la plus hardie qui se puisse concevoir pour établir la domination de la volonté humaine sur les faits en les intégrant d'avance dans un acte de prévision, dont le contrat fige la durée, il fige le temps. Et le temps, lui, continue à couler. Et donc, il y a une opposition entre le temps qui coule et le contrat qui l'arrête. Et cette opposition, eh bien, seule l'institution peut la résoudre, parce que l'institution, elle, elle est ouverte vers la durée, elle permet de comprendre l'évolution des situations, l'évolution des faits qui intègrent la durée. Et d'autre part, le contrat n'est pas fait pour durer, mais il n'est pas fait non plus pour le collectif. Le contrat, c'est la rencontre de volontés inter-individuelles, mais comme l'avait montré Duguy de son côté, le contrat, c'est une opposition de volontés, ce n'est pas une convergence de volontés pour faire du collectif. Et donc, le contrat n'est pas fait pour du collectif. Le contrat n'est pas fait pour durer, il n'est pas fait pour du collectif. C'est l'institution qui, chaque fois qu'il y a durée ou collectif, doit remplacer le contrat. Et puis alors, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Il aborde, en fin d'analyse du contrat, le contrat appliqué aux politiques. Il dit d'abord, le contrat appliqué aux politiques, ça ne marche pas parce que, précisément, le politique, c'est du social, donc il faut l'institution. Mais, et alors, c'est l'occasion pour lui de montrer que, malgré tout, l'idée de contrat n'est pas absente du politique. Et, en quelques lignes, superficielles d'ailleurs, il faut bien le dire, mais là n'est pas l'essentiel, Auriol critique l'idée de contrat social et il oppose au contrat social, qui serait une espèce de fondement originel et imaginaire, il oppose un contrat réel, effectif, permanent, qu'il appelle le contrat de gouvernement. Le contrat de gouvernement qui est le contrat permanent entre le peuple et le gouvernement. Et ce contrat réel, eh bien, il l'oppose effectivement au contrat imaginaire du contrat social. Contrat de gouvernement, j'ai entendu dire, je ne sais plus où d'ailleurs, qu'il y avait eu un colloque, la semaine dernière, je crois, au Sénat, autour de la pensée de Mendès France, et que l'idée de contrat de gouvernement avait été évoquée comme une des grandes idées de Mendès France. Mendès France avait-il lu Auriol ? Ça, je n'en sais rien. Mais l'idée de contrat de gouvernement est bien présente dans les principes de droit public, et ça me paraît être une idée qui est vraiment importante chez Auriol. D'ailleurs, je dois dire, excusez-moi si j'allonge un peu mon propos, que j'en avais parlé il y a fort longtemps avec son fils, André Auriol, qui m'avait bien confirmé que dans les mouvements politiques qu'il suivait, et donc probablement Mendès France aux côtés d'André Auriol, l'idée de contrat de gouvernement avait eu son importance. Il me reste à vous parler de la réalisation du régime d'État. Comment ce régime d'État se réalise-t-il ? Eh bien, il se réalise par le jeu, là encore, nous avons une idée centrale des principes, d'un ensemble d'équilibres qui s'établissent entre la nation et l'État. Et ces équilibres sont le résultat eux-mêmes de deux mécanismes qui sont la superposition d'une part et la séparation d'autre part. Les équilibres de superposition. Avouons-le, la notion de superposition en droit ou dans la science politique est une notion qui n'est pas fréquente. Elle est une notion inédite. Et d'ailleurs, Auriou n'est pas très explicite là-dessus. Qu'est-ce que cela veut dire ? On peut émettre l'idée que la notion de superposition est originale en ce qu'elle établit un lien entre plusieurs instances qui peuvent, en quelque sorte, un lien qui peut se définir négativement d'abord. Ce n'est pas une opposition, puisqu'il y a superposition. La superposition aussi n'institue pas une relation hiérarchique. Il n'y a pas de hiérarchie entre les strates. Elle n'est pas non plus intégrée dans une dialectique de type hegelien. Nous retrouvons cette idée qui traverse Auriou. C'est l'idée d'une superposition qui relève de la coexistence des opposés. Nous sommes du côté de Nicolas de Couze. Un système de superposition sédimentaire, une logique de strates que l'on retrouvera peut-être prise dans un autre sens et plus tard par Michel Foucault. Mais l'idée de strates ne doit pas nous fixer sur quelque chose de figé, car la superposition, c'est quelque chose qui relève de l'élan vital. Relève de l'élan vital parce que elle permet, cette superposition, la cohabitation des forces instinctives et d'autres qui sont les forces dites intelligentes. Auriou emprunte ici la distinction entre l'instinct et l'intelligence à Bergson dans l'évolution créatrice. Et donc, le régime d'État serait l'effort pour superposer, je dis bien superposer, l'intelligence à l'instinct qui se manifeste d'abord et pour établir un équilibre entre le jaillissement de l'instinct et la rationalisation de l'intelligence. Et cette superposition s'applique dans les relations qui s'établissent entre l'État et les institutions primaires qui sont au-dessous de lui, et l'État et la nation, dont là je vais être le plus bref possible. Il y a une superposition avec les institutions primaires, et notamment avec toutes les institutions qui sont aujourd'hui celles que nous connaissons bien, par exemple les établissements publics, les établissements d'utilité publique et les collectivités locales. Et Auriou explique très bien comment l'État, c'est d'abord, il y a un passage qui est tout à fait remarquable, c'est d'abord substitué à ces collectivités, les a écrasées par sa centralisation. Et puis, il lui fallait bien un équilibre. Et donc, ayant écrasé les collectivités territoriales qui étaient déjà là, qui étaient spontanément là, et comme il lui fallait un équilibre, il les a reconstituées, mais en quelque sorte, dans son propre sillage, dans son propre mouvement et sous forme de régime d'État. Et donc, ainsi a été créé, selon Auriou, un équilibre entre le régime d'État qui est global et le régime primitif qui se font contrepoids l'un à l'autre. Donc, et là on comprend, parce qu'on a dit Auriou c'est contradictoire, parce qu'il définit la décentralisation. À propos de la décentralisation, il dit « c'est une manière d'être de l'État » et il dit ailleurs « les collectivités sont autres par rapport à l'État ». Mais c'est ça. Les collectivités sont autres par rapport à l'État dans un équilibre avec une notion qui est une manière d'être de l'État. Très intéressante aussi est la superposition à la nation. Car le phénomène de superposition qui caractérise la structure de l'État, nous dit Auriou, facilite la compréhension de ce qu'est une nation. Alors là, nous avons quelque chose de très bien, parce que la nation n'est pas pour Auriou celle de Renan. Vous savez, la célèbre formule de Renan, et il nous dit la nation, ce n'est pas une population qui a une communauté de civilisation, de pensée, d'aspiration, c'est aussi, car Auriou, il y a toujours aussi, c'est ceci et décrit cela. C'est aussi une population organisée. Une population organisée que l'histoire a façonnée en classe, le terme de classe, et à laquelle a été donnée de ses institutions primaires qui la rendent apte à recevoir une superstructure d'État. Donc, la nation, il y a bien cet élan commun, il y a bien la nation telle que Renan l'a définie, mais c'est aussi une structure réaliste, réelle, réaliste, organisée en classe, en ordre, en mouvement, en opposition. Et d'ailleurs, on peut ajouter que dans cette logique d'un équilibre, Horiou poursuit les superpositions au-delà de la nation, mais les intégrant à la nation, dans ce qu'il appelle l'équilibre politico-économique, et aussi le long chapitre sur le régime civil, dans lequel il a cette phrase, que ce régime est un régime de classe. Là, je vais vite, parce que je voudrais vraiment ne plus abuser de la parole. Il me reste à parler, brièvement, des équilibres de séparation. Et là encore, Horiou manifeste son originalité. L'idée de séparation, classiquement, lorsqu'elle est évoquée par les juristes ou les politologues, c'est évidemment la séparation des pouvoirs, la séparation des pouvoirs ou des fonctions de l'État. Pour Horiou, il en va autrement. Horiou, dans une logique d'équilibre pluraliste, la nation aménagée en régime d'État, saisit le phénomène de séparation sur tout l'arc de l'organisation sociopolitique. Et il nous dit, il faut s'attacher aux nombreuses séparations que l'observation la plus superficielle relève dans le régime d'État, et qui, ajoute-t-il, jusqu'ici il est bien permis de le remarquer, n'avaient été rattachées à aucune idée générale. Donc, une idée générale, non pas de la séparation des pouvoirs, mais des séparations en général. Et c'est là que Horiou nous montre, utilise cette belle métaphore de l'État comme une cathédrale qui ne résiste aux lois de la pesanteur que par les contreforts. Pourquoi ? Eh bien parce que cette séparation est fondée essentiellement, là encore, là toujours, sur la notion d'équilibre. Et cette notion d'équilibre liée à l'idée de séparation, c'est pour ça que j'ai parlé des équilibres de séparation, un de mes jeunes doctorants l'a bien montré, Christophe Alonso, cette idée d'équilibre est essentielle pour comprendre l'idée de séparation. Alors ça peut paraître contradictoire, là encore. Ce qui est séparé, comment l'équilibrer ? Eh bien, c'est une question de degré. Horiou nous dit, il y a séparation juste assez pour constituer un équilibre, pas assez pour constituer une mutilation ou un déchirement de l'État. Et après avoir analysé ce qu'il appelle la séparation fondamentale à laquelle il tenait beaucoup pour s'opposer aux soviets, comme il disait, le pouvoir politique et le pouvoir économique, donc aucun mélange entre propriété et souveraineté, mais puissance publique au service du marché. C'est le communisme juridique. C'est intéressant comme distinction. Et là, Horiou, après avoir fait toutes ces analyses, nous propose deux grands types de séparation, le pouvoir civil et le pouvoir militaire. C'est quand même intéressant, ça n'avait pas trop été fait avant lui, et pas trop après lui d'ailleurs, et le pouvoir civil et le pouvoir religieux. On dira enfin, pour clore ce panorama qui vous a paru sans doute bien long à m'écouter, mais qui est pourtant tellement sommaire, que dans les derniers chapitres, Horiou fait une sorte de retour à l'État, de retour à l'État qui paraît plus classique. À lire ces derniers chapitres, il y a beaucoup d'idées intéressantes. Et ces idées sont retrouvées dans un cadre classique, les équilibres constitutionnels, la séparation du gouvernement et de l'administration, la centralisation et la loi, face à l'État, les libertés publiques, il n'emploie pas le terme, mais il y a les libertés fondamentales et les droits individuels. Et puis surtout, la figure terminale, la figure qui clôt les principes, figure que l'on n'attendait pas, mais que l'on aurait dû attendre, la personnalité juridique. La personnalité juridique qui arrive comme le couronnement de ce long cheminement qu'il avait d'abord nié, mais qui est le résultat du régime d'État. Qui est le résultat du régime d'État, l'État peut avoir la personnalité juridique parce qu'il est intégré dans quelque chose de plus large, dans une problématique plus large, qui est le régime d'État et les équilibres qui sont constitués dans le régime d'État. Et donc un équilibre entre cette personnalité subjective et l'individualité objective qui fait qu'elle est le résultat de tout le mouvement réel qui est celui du grouillement des forces sociales. En conclusion, on aurait voulu, mais c'est un autre sujet presque, mesurer la place des principes de droit public dans le flux de l'œuvre d'Orioux. C'est intéressant aussi ça. Je crois que par rapport à ce qui précède, les principes de droit public, c'est la fin de la période purement sociologique d'Orioux. Il conçoit qu'il faut donner, il faut faire une analyse juridique des fondements du droit. Il le dira plus tard. Et donc, ne pas distinguer la sociologie et le droit, mais avoir une analyse sociologique du droit, une analyse du droit qui intègre la sociologie, mais qui soit véritablement juridique. Et donc, les principes du droit public, c'est ce virage-là, de la sociologie vers un droit, mais un droit ouvert à l'analyse externe du droit, comme il l'a dit quelques années auparavant. Et ce qui a suivi, c'est la deuxième édition, 1916. Et là, j'avoue que c'est un travail que je voudrais faire, un travail de comparaison précise entre les deux éditions. Entre les deux, vous savez ce qui s'est passé, évidemment. 1916, on est encore en pleine guerre. En quoi la guerre a-t-elle influencé Orioux dans sa deuxième édition ? Ce qui paraît certain, c'est que la deuxième édition, qui est une réponse aussi à des critiques qu'on lui a formulées, elle tente à être plus rationnelle, moins buissonnante, moins imaginative. Et je dirais que, et j'en ai un peu de regret d'une certaine manière, bien que, au fond, rien ne soit altéré, c'est un peu le mouvement vers lequel Orioux est allé, sans doute en raison de toutes les critiques qu'il subissait, de vouloir tempérer son imagination, de vouloir la rationaliser. On l'a bien vu à propos de l'institution, j'ai tenté de le montrer dans les mélanges Mourgeon, comment cette institution instituante est devenue une institution instituée, qui était un simple modèle. Et donc, la rationalité qui, petit à petit, tend à paralyser un peu le flux imaginatif. Et ce flux imaginatif, sur lequel je voudrais quand même terminer, en m'effaçant derrière le doyen Georges Vedel, qui pourtant, je serais amené à le dire, je crois dans une étude à propos de Jean Rivero, à mon avis, a laissé de côté certains aspects vraiment intéressants d'Orioux. Mais à Toulouse, en 1968, c'était déjà le mois de mai d'ailleurs, Vedel nous disait cela. Les grands auteurs se laissent en général ramener à une vue centrale, à une intuition dominante, à partir de laquelle leurs pensées fusent en gerbe. Pour Orioux, l'intuition fondamentale paraît être la volonté d'appréhender l'homme social dans toute sa richesse, déterminant et déterminé, matière et esprit, modelé par l'histoire et faisant l'histoire, éparpillé dans des anecdotes décousues et se retrouvant dans l'unité des réussites classiques. Au total, la volonté désespérée, trébuchante et parfois victorieuse, de saisir cette humanité comme une aventure du monde, en même temps que comme un destin singulier. Je trouve ces phrases très belles.